L'île au peuplier, un feuilleton radiophonique avec un promeneur, un philosophe, une torche, une question perdue, une nuit, une balade, deux époques, un temps à contre-temps, mais surtout, et c'est important, aucune réponse toute faite. Résumé de l'épisode 3. Julien, enfermé pour la nuit au parc Jean-Jacques Rousseau d'Ermenonville, marche désormais aux côtés du fantôme de Jean-Jacques Rousseau. Tous deux refont le chemin de la balade matinale du philosophe, à la recherche du souvenir de sa dernière question, l'ultime, juste avant que de mourir. Les frontières du parc en cette nuit du 4 juillet 2015 se confondent avec celles de 1778. Après s'être arrêté au pavillon Jean-Jacques Rousseau, puis au banc Jean-Jacques Rousseau, celui-ci se souvient d'un jardinier. Épisode 4, musique de nuit. Minuit. Il était minuit quand Jean-Jacques Rousseau finit sa tirade sur les désirs des hommes et leurs inégalables facultés à se perdre dedans. Bon Jean-Jacques, ce jardinier, mutique et enrobé, a-t-il un rapport direct avec votre question oubliée ou bien est-il un simple effet de votre mémoire qui revient? En quelque sorte, une luciole dans vos souvenirs en promenade. Qu'en sais-je, mon ami? Vous vouliez que nous retracions cette matinée du 2 juillet 1778? Alors, nous retraçons. Je m'efforce d'essayer d'en retrouver le chemin. Avançons, nous verrons bien où tout cela nous mène. Je vous signale juste que nous avons reculé de deux cases, là. Nous étions au banc de Rousseau et nous sommes revenus à la maison du jardinier. Soi-disant, une chose vous aurait échappé. Que veux-tu? Ainsi vont et viennent les souvenirs, Julien. Trois pensées en avant et deux en arrière. Ça me rappelle une comptine.
Une comptine?
Et de laquelle s'agit-il, je te prie?
Oh, une comptine de quand j'étais gosse et que j'allais en colo.
Tiens, ben écoutez, ça vous détendra, je vais vous la chanter. Puis ça me détendra aussi, moi, parce que là, je me sens un peu tendu avec toutes vos histoires. Alors, attendez que ça me revienne, oui. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Et tinaninani, tinanilalère. Ah, sais-tu, Julien, que les comptines populaires sont très souvent empreintes d'un certain bon sens. Elles ouvrent l'esprit. Tiens, écoute donc celle-ci à ton tour. Zig, zag, zoug, pisse trois gouttes dans un vermouth. C'est une comptine suisse-romande de mon enfance. Vois-tu, Julien, du bon sens, car la mémoire me revient. Ouais, enfin, j'aime mieux entendre ça que d'être sourd. Mais c'est pas le tout, il est minuit et les dimensions du parc de 1778 sont assez étendues par rapport à celles de 2015. Mettons-nous en route, ça vaudrait mieux, vous ne croyez pas? La Mérango est en colère, elle a mangé trop de pommes de terre et son mari, trop d'haricots, vive la Mérango! Oula, monsieur le philosophe, quelle gaieté! On peut savoir pourquoi? Et qui est cette Mérango dont vous nous tirez le portrait?
Sachez, mon cher Julien, que cette Mérango est un personnage de fiction apparu en 1767. C'est une poissarde parvenue à la richesse. Mais le plus surprenant que l'on puisse apprendre à son sujet, c'est qu'à l'origine, ce personnage fut joué par un homme.
La Mérango, joué par un homme. Et où cela nous mène-t-il? Peut-on savoir?
Je ne le sais pas encore, Julien, mais patience. Ma mémoire est un pulse. Il me manque des morceaux, certes. Alors en attendant, un peu de culture ne nous fera aucun mal, non?
Ouais. Un pulse de 237 années multiplié par 365 jours, soit, voyons voir sur ma calculette, 86 505 pièces. C'est peu dire. Mais je vous en prie, instruisez-moi. Hein. Après être reparti de la maison du jardinier, puis de nouveau passé par les bancs de Jean-Jacques Rousseau,
Ils arrivent à l'endroit supposé être la tour Gabriel, qui se trouvait juste avant le kiosque, qui lui existe encore de nos jours. Alors, étiez-vous passé par là ce matin-là? Est-ce que la vue de ce kiosque évoque en vous le moindre petit souvenir, quelque chose, une musique? Non, rien. Je n'entends que le bruissement léger des abeilles. Je me revois contemplatif, observant fleurs, arbres, insectes. Les monuments de la nature, en quelque sorte. Ceux des hommes semblent si peu doués pour le naturel. Pourtant, mon ami le marquis René de Girardin avait mis toute son âme à la construction de ce parc, cherchant à lui donner l'effet le plus naturel possible. Un peu à l'image de cette grosse pierre à la cascade qui fut transportée en morceaux et reconstituée à l'identique, en camouflant les jointures avec les mousses et autres plantes sauvages. Une nature qui reprendrait ses droits, en quelque sorte. Votre question portait sur la nature, des choses de ce parc, peut-être. Vous étiez-vous interrogé sur la véracité des fabriques de votre ami le marquis? Mais certes non. Le marquis et moi-même étions en accord sur nos désaccords, voyez-vous. Nous nous apprécions, et ce qu'il tenta de reproduire ici était une extension de lui-même, de sa pensée, de sa propre nature en quelque sorte. Même aujourd'hui, lorsqu'on emprunte ses chemins, on chemine encore en ses pas. René de Girardin était un peu comme cet homme, cet acteur qui joua la Mérango. Il donna un visage à la cour, mais ici, en ces lieux, le masque tomba, la nature l'envahit et nous réunit, pour un temps très court, diront certains. Mais il me sembla long, à moi. J'ai passé ici du 28 mai au 2 juillet 1778, un des mois les plus reposants de mon existence. Ce que je ne savais pas, Julien, c'est que mon repos allait prendre un train pour l'éternité. L'homme avait repris sa trace, son cheminement. Il marchait depuis trop longtemps dans ses souvenirs, dont semblait-il il avait besoin d'être délivré. Jean-Jacques Rousseau, ou cette luminescence de son être, cherchait dans la somme de toutes ces nuits, le faisant réapparaître un 4 juillet, une réponse. La réponse à son ultime et dernière question. Julien, lui, était comme un fusible, permettant au courant de passer. Il avançait avec lui entre rêve et réalité, entre ce qui avait existé, ce qui existait encore. Après cette nuit, une chose était sûre, Julien ne serait définitivement plus jamais le même homme. Jean-Jacques, c'est tout de même bizarre, il y a, comment dire, comme une sorte de portail temporel qui s'ouvre à nous, nous permet de vagabonder entre passé et présent, de prendre les chemins de 1778 et ceux d'aujourd'hui. Mais comment c'est possible? Par quelle étrangeté mystique pouvons-nous être ici et là-bas en même temps? Je crois qu'il s'agit de communion. Celle de nos deux âmes. L'une est vivante, l'autre est morte. Ce qui explique la dualité du parc. De plus, la lune de ce samedi 4 juillet 2015 est absolument identique à celle du samedi 4 juillet 1778. Je pense effectivement que nous profitons ici d'une porte temporelle. Mais la nuit prendra fin, mon ami. La porte se refermera. Et ce, dès que l'astre solaire aura repris sa place. Je disparaîtrai alors, encore une fois, condamné à revenir pour élucider mon équation. Tout ce que mon esprit pourtant fécond n'arrive pas à comprendre doit être résolu dans la nuit. Autrement, j'ai besoin de vous, Julien, de votre compagnie, car bien des choses pourraient...
Pourraient quoi? Oh! Hey, « Hé, oh, Jean-Jacques, vous m'entendez? Pourrait quoi ?»«
Entendez-vous? Ben non, quoi? Un corps de chasse, au loin ?»«
Ah non, désolé. Je dois me trouver dans une réalité tout autre que la vôtre, là, en ce moment, parce que là, j'entends que dalle. » »«
Cela ne fait rien. Reprenons notre route. Je vais suivre le son de ce corps, tout comme nous avons suivi le bruissement des abeilles. J'ai une bonne intuition, Julien. »
Sauf que là, le gibier doit être un peu plus gros qu'une abeille, non? J'ai l'impression, Julien, de retrouver certains de mes sens. Mon ouïe, mon odorat, ma vue, me sont pour ainsi dire peu à peu rendus. Je pense que c'est grâce à vous, à votre présence. Mon corps spectral, mélangé à votre corps physique, crée une sorte de pont, d'être unique, une sorte de symbiote avec lequel mon être astral peut avancer, voir, sentir, entendre, depuis son futur, vers son passé. Dommage que je ne puisse pas toucher. Oula, monsieur Rousseau, l'astral de physique encastré sur un pont pour la nuit avec la lune pour complice. Bonjour le tableau, hein. Vous m'emmenez où comme ça? Et puis touchez quoi d'abord? Vous êtes une drôle de personne, Julien. Pour vous, le premier degré est le seul qui soit. Ne vous brûlez-vous jamais au feu de vos pensées? Votre âme ne se chauffe-t-elle jamais à l'âtre de vos désirs? Non, et je vis très bien ainsi, merci. Premièrement, j'y comprends rien à votre charabia. Deuxièmement, je me méfie des inconnus trop connus, sous forme astrale, spectrale ou encore fantomatique, surtout lorsqu'ils me proposent la botte. La botte, dites-vous. Vraiment, vous pensez cela? Ce serait, pardonnez-moi l'expression, tirer un coup d'épée dans l'eau avec vous, mon cher. Je ne vous propose pas la botte, comme vous dites. Ce que je vous propose, Julien, c'est mon illustre compagnie. C'est de m'accorder la vôtre pour la nuit, sous une même lune. Une compagnie dont vous êtes le vecteur commun entre mes errances et mon questionnement. Ce que vous en retirerez vous regarde, mais vu d'ici, une expérience hors du commun des mortels, c'est certain. Mouais, soit, vu comme ça, le son du corps, avez-vous dit? Y avait-il une de ces chasses pour riches en ce 2 juillet 1778? Possible. Et bien que je les exècre, ces sons me remettent en selle. Je sens le vent de mes souvenirs tourner dans le bon sens. Alors, mon ami, dites-moi, êtes-vous encore du voyage ou repartez-vous vers la grisaille du jour? Un jour faussement heureux, passé à glandouiller dans les herbes hautes du parc Jean-Jacques Rousseau d'Hermenonville. Ça va, ça va. D'abord, je glandouille pas, je me repose. Et puis, vous pouvez parler, vous, 237 années au même endroit. Glandouiller. Non mais, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça ne vous arrive jamais, à vous autres philosophes, de douter, non? Mais tout le temps, Julien, sans cesse. Mais de ces doutes sont nées parfois de belles affirmations, de somptueuses croyances. Fussent-elles fausses, elles conduisent nos âmes droit vers la pensée. Ce corps de chasse, je l'ai bel et bien entendu ce jour-là. J'ai souvenance d'un cerf également, tout près de l'étang au crapaud. Un cerf? Oui, un cerf. Bête sublime, majesté forestière, traqué par les désirs sanglants de possession des hommes. Vouloir posséder un peu de sa liberté pour l'exhiber en trophée. Pauvre race humaine. En déployant ainsi ses désirs sur la carte de son territoire intime, l'homme nourrit ses peurs, emplit son vide, autant dire que rien, rien, jamais ne le comble. Car vois-tu, Julien, à l'image de ce cerf, vivre libre et peut tenir aux choses humaines est le meilleur moyen d'apprendre à mourir. L'île aux peupliers.
Feuilleton autour de Jean-Jacques Rousseau et du parc d'Hermenonville.
Un feuilleton écrit par Gontran Bodequin. Montage Frédéric Gis.
Diffusé du 6 au 17 avril, du lundi au vendredi à 9h. Rediffusion et podcast sur notre site www.radio-valois-mulcien.fr.